Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique Élise Leu.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Pour ce dernier épisode de notre série sur l'économie de la famille, je demande aujourd'hui les grands-parents. Cette semaine, nous avons vu que le désir d'enfant n'était pas dénué de calcul. Nous avons parlé de la circulation de l'argent dans le couple et de l'histoire du travail en famille. À présent, c'est le partage des richesses entre les générations que nous allons interroger. À l'heure où la vie s'allonge, la question de la transmission entre les plus âgés et leurs cadets revient dans le débat public. Quel doit être le rôle de l'héritage et comment les retraites doivent-elles organiser les solidarités à l'échelle de la société? Voilà les questions que nous allons traiter dans l'heure et les décennies qui viennent. Vous écoutez France Culture en famille ou en solo. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour parler de la solidarité entre les générations, j'accueille autour de la table Anne Gottman, sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS, autrice d'un Que sais-je sur l'héritage paru au PUF. Avec nous également André Masson, économiste, directeur de recherche émérite au CNRS et auteur de l'ouvrage Des liens et des transferts entre générations, publié en 2009 aux éditions de l'EHESS. Et pour conclure cette émission, nous retrouverons comme chaque jour Xavier Martinet et son journal de l'écho. Bonjour André Masson et Anne Gottman.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, il faut peut-être commencer par dire, Anne Gottman, que la famille, c'est un lieu où s'exerce historiquement un système de solidarité, système qui perdure malgré l'invention de l'État social.
Oui, bien sûr, c'est un système de solidarité et qui d'ailleurs a ses lois qui peuvent être féroces, mais qui a été un peu oublié par la sociologie. Dans la mesure où c'est le ménage qui est devenu l'unité de compte de tout. Donc la sociologie, pendant des années, s'est concentrée sur le ménage, parents-enfants, point barre. Et c'est une sociologue, Agnès Pitrou, qui a déjà assez longtemps, ressorti cette constante, en fait, qui est les rapports intergénérationnels au sein de la famille.
Des rapports intergénérationnels qui ont été pris en charge par l'économie. De quelle façon, André Masson, comment est-ce que les économistes ont traité cette question de la circulation de l'argent entre les générations?
De manière très simple au départ, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une épargne. Et c'est une épargne qui n'était pas faite pour les vieux jours comme réserve de consommation différée, mais qui était transmise aux enfants. Donc on s'interrogeait sur les motifs de transmission. Est-ce que c'est un moyen de paiement pour obtenir les services des enfants, être soigné, aimé, etc. Est-ce que c'est l'altruisme parental au sens économique, c'est-à-dire on se prolonge, notre bien-être dépend de celui des enfants chers de notre chair, ou en fait tout simplement parce que on meurt trop tôt et que c'est ce qu'on laisse de manière accidentelle, si Dieu nous avait laissé une vie plus longue, on l'aurait consommée. Voilà le genre d'approche au départ. Ça s'est beaucoup complexifié depuis.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les économistes et les sociologues ont abordé la question de l'héritage de façon très différente. Anne Gottman, expliquez-nous cela.
Ben oui, parce que, enfin, les sociologues, moi en tout cas, je si vous voulez, je ne prends pas seulement comme une richesse matérielle, économique. Je dirais que tout ce que j'ai essayé de montrer, c'était justement la double valeur de l'héritage, qui est économique, effectivement, utilitaire, pratique, etc. Et la valeur symbolique de l'héritage. Que c'est, à savoir que c'est un bien de famille qui ne vient pas de nulle part, qui a une histoire, etc. Et donc, dont l'économie est réglée de façon spécifique.
André Masson, sur cette différence peut-être dans l'approche de la question de l'héritage, selon qu'on est économiste ou sociologue.
Le deuxième volet des économistes, c'est s'intéresser toujours à l'héritage matériel. C'est la partie émergée de l'iceberg, de l'ensemble des transmissions des parents aux enfants, symbolique, culturel, affectif, tout ça. Mais il se concentre sur l'économique séparée du reste, ce qui peut être un défaut. Et c'était conçu par les économistes réformistes comme un vecteur privilégié de reproduction des inégalités entre générations, d'inégalités des chances, source de rente improductive, etc. Donc, finalement, à l'arrivée, par exemple, pour la taxation des héritages, vous aviez, j'empiète, mais vous aviez deux principes contradictoires, une morale familiale ou une morale d'entreprise dans lequel ce qu'on avait accumulé, ce qu'on avait sacrifié de sa consommation pour ses enfants ou pour la société était une épargne vertueuse qui ne devait donc pas être taxé. Mmh. Et en face, vous avez un principe de justice sociale qui disait au contraire qu'il fallait redistribuer les cartes à chaque génération pour qu'il y ait au moins égalité des chances et pour que le marché puisse bien fonctionner par une compétition non faussée. Et là, il fallait taxer. Et ces deux principes sont incommensurables, contradictoires. Et le problème, c'est où placer le curseur.
Et puis la question, c'est aussi qu'est-ce qui doit prendre en charge les âges fragiles de la vie que sont à la fois l'enfance et la vieillesse. Est-ce que ça doit être le marché? Est-ce que ça doit être l'État? Ou encore la famille? Ad Gottman, c'est vraiment une question qui divise les théoriciens depuis Locke et Rousseau.
Oui, oui. Mais en ce qui concerne l'héritage, ça a été... Il y a cette question, bien sûr, de la solidarité, mais entre les générations, mais ça a été plus que ce que dit André, la tension entre l'égalité horizontale, donc, et la partie, si j'ose dire, la structure verticale de la société, la question de la succession des générations. Si vous me permettez, il y a à la Révolution, on s'est posé la question du maintien ou pas de l'institution de l'héritage. Mmh. C'était même une question paradigmatique. Dans une révolution, l'héritage, on le largue en principe. Hein. Et il y a eu des débats absolument très vifs et passionnants. Et effectivement, ce que disait André, est-ce que à chaque génération, on rebat toutes les cartes. Et il y a un député à l'Assemblée en 92 qui disait « Ok, on rebat toutes les cartes, mais alors ça va être un désordre effroyable à comment on va attribuer, les biens vont être occupés de façon illicite, etc. etc. » Et j'en viens là, ce qu'a, disons, prononcé Robespierre. Robespierre disait... La question, effectivement, est-ce que la propriété s'étend au-delà de la mort? Est-ce que quand on est réduit en poussière, on peut décider de ses biens, etc.? Non. Et qu'est-ce qu'il disait? La société remet les biens du défunt aux mains de ses successeurs dans l'intérêt public et égalitairement. Ce n'est pas l'hérédité en tant que loi naturelle donc, qui fonde l'héritage, mais l'intérêt public. C'est autrement dit, voilà, ça vient pas tout seul. C'est la société, pour son ordre, pour l'ordre, qui maintient donc cette institution en l'aménageant dans le sens d'une meilleure égalité entre enfants. À l'époque, il s'agit de l'égalité entre enfants.
C'est important cette justification de l'héritage, André Masson, parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quel que soit le patrimoine dont on dispose, il y a une très grande majorité de la population qui tient à préserver, à protéger l'héritage et à transmettre à leurs enfants ou à leurs petits-enfants.
Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle l'impopularité des droits de succession, qui a différentes facettes, mais il y en a une justement dans les enquêtes d'opinion, qui fait qu'en fait, si on classe une douzaine d'impôts, on demande aux gens de les classer. Et l'ISF venait en tête, le plus populaire. Et le moins populaire était l'impôt sur les successions derrière la redevance télévision.
Et alors, comment est-ce qu'on l'explique?
Alors ça, il y a en plus une montée de cette opposition, de cette impopularité, puisqu'en fait, les gens qui sont pour le fait de diminuer l'héritage, maintenant c'est plus de 80% de la population, mais ça a augmenté encore sur les 10 dernières années, etc. Alors, une des raisons pour lesquelles on a cette position, je pense, c'est la montée des valeurs familiales. Là, j'ai une phrase de Durkheim en 1900. « La famille se décompose sans cesse, elle ne dure qu'un temps, elle n'a plus la puissance suffisante pour relier les générations les unes aux autres, et l'héritage familial est destiné à perdre de plus en plus son importance par rapport à l'échange. » Bon, ça c'est clair que c'est bien ce qu'il a en tête, mais c'est pas du tout ce qu'on constate maintenant, où en fait la famille apparaît, bon, c'est plutôt des discours de sociologue, là, je suis gêné, comme une valeur refuge contre les aléas et les incertitudes du marché, donc vous avez cité, et en même temps contre le repli de l'État-providence, l'ascenseur social ne marche plus, l'éducation ne paye plus comme avant. Donc il y a un investissement affectif social sur la famille, conçu comme une valeur refuge, qui monte et qui explique même, si vous voulez, pour parler d'un paradoxe, que les pauvres sont contre les droits de succession, pour lesquels ne seront jamais touchés, mais c'est une espèce de processus d'identification aux valeurs familiales des classes moyennes qui inclut la transmission d'un héritage, potentiellement.
Anne Gottman, sur ce rejet, sur ce qui explique ce rejet des droits de succession dans toutes les couches de la société.
Oui, je crois que c'est aux États-Unis qu'on appelle ça la taxe sur la mort.
Oui, c'est ça, je peux en parler.
C'est bon. Oui, ça a toujours eu mauvaise presse. C'est parce que, effectivement, ces biens, encore une fois, ils viennent de l'héritage. Alors, ils viennent de la famille. Donc, dans les familles moyennes et modestes, qui sont la majorité numérique à hériter, ces biens peuvent être très très chargés historiquement. C'est la sueur du travail du père. C'est pas rien, c'est pas simplement la valeur économique.
Alors justement, c'est pas simplement la valeur économique, c'est aussi la valeur symbolique. Oui. Je voudrais vous faire entendre sur ce point la sociologue Anne Muxel.
Dans les familles de la grande bourgeoisie, la question de l'héritage, de la transmission des lieux, des grandes maisonnées auxquelles sont attachés tous les codes emblématiques, tout l'honneur de la famille, tout ce qui va faire l'emblème de la famille, généralement, on s'arrange toujours pour que dans ces familles, ces maisons soient gardées, transmises de génération en génération. Mais c'est vrai que la question de l'héritage se pose très différemment dans des milieux où il y a pas grand-chose à transmettre. Par contre, ce qui se pose, c'est la gestion, la transmission de tous ces objets qui sont, par définition, sans valeur. On voudra garder le bol à raser de son grand-père, on voudra garder le linge, on voudra garder autant de choses qui n'ont pas de valeur et qui pourtant, me semble-t-il, aujourd'hui, ont pris plus de valeur qu'avant. Hein, parce que, justement, il me semble que cette volonté de donner sens à la mémoire et de s'inscrire dans une histoire et dans un passé me semble se développer aujourd'hui et répondre, venir un petit peu contrecarrer les incertitudes, les angoisses que l'on peut avoir face à un avenir incertain.
Voilà, la sociologue Anne Muxel dans les Nuits magnétiques sur France Culture, c'était en 1995. Vous diriez, Anne Gottman, que cette dimension symbolique de l'héritage est de plus en plus importante ?
Je ne saurais pas, parce que je ne sais pas le mesurer et que je n'ai pas essayé de le mesurer. Je pense qu'on y est plus sensible, en tout cas. Ça se verbalise davantage. Il est vrai que dans les années 80, 70, etc., on était beaucoup plus axé sur le progrès, le nouveau, etc. On est beaucoup plus sensible à la durée, à une société durable. Donc tout ce qui s'inscrit dans l'histoire, la mémoire, la famille, oui, ça prend toute sa place.
Vous parliez des taux d'imposition, André Masson, et qui peuvent avoir très mauvaise presse, quelle que soit la couche sociale à laquelle on appartient. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que ces taux d'imposition, tels qu'ils existent aujourd'hui, vous paraissent justes ? Quelle est votre opinion par rapport à cela ?
Là, il faut faire un historique, y compris sur l'impopularité des droits de succession, qui ne sont pas uniquement les opinions des gens, mais qui sont effectivement aussi la fin du débat sur l'héritage. Anne Gottman a beaucoup écrit sur le sujet, il n'y a plus de débat sur l'héritage. Il y avait encore un débat magnifique entre, par exemple, Marx et Bakounine à la première internationale du congrès de Bâle en 1869, par exemple, où Bakounine disait que l'héritage, c'était la cause, le principe structurant des inégalités sociales, de la reproduction des classes sociales et, en fait, de l'exploitation. Alors que Marx disait, ça n'est jamais qu'un symptôme et qu'un reflet, et que la transformation sociale ne viendra pas de là. Donc il y avait des débats énormes chez Tocqueville, chez John Stuart Mill, qui ont disparu. Et alors, quand on dit qu'il y a une impopularité des droits de succession, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est durable, mais elle n'est pas du tout une constante de l'histoire. Un exemple simple, c'est qu'aux États-Unis dans les années 30, il y avait un programme qui s'appelait SHOW, en anglais montré, Share Our Wealth, partager la richesse, au moment de Roosevelt, et qui était pour 7 millions d'adhérents, et qui était pour un plafond, c'est-à-dire au-delà d'un million de dollars, qui était beaucoup à l'époque, il fallait supprimer complètement l'héritage. Ça a même bousculé Roosevelt, qui a dû faire des réformes pour éviter que ce trublion, dont j'ai oublié le nom, ne monte dans les sondages, etc. Donc il y avait une époque, et on date même aux États-Unis de la fin de cet attrait pour les droits de succession de la campagne de 72 de McGovern.
Vous dites qu'il n'y a plus de débat, André Masson, mais il y a tout de même l'économiste Thomas Piketty, dont les travaux ont montré que depuis les années 70, on assiste à un retour de l'héritage. On l'écoute.
On va léguer à nos enfants beaucoup plus de patrimoine qu'on n'en a jamais légué. Et le patrimoine en pourcentage du PIB a beaucoup plus augmenté que la dette publique en pourcentage du PIB. Le problème, c'est que la répartition de ce patrimoine est parfois excessivement concentrée. Concrètement, la moitié de la population ne possède presque pas de patrimoine. Les 40% suivants ne possèdent pas grand-chose, 20-30%, et on a 60% pour les 10% les plus hauts. Donc, le but, c'est pas de détruire le patrimoine, de diminuer la quantité de patrimoine, mais de permettre à un plus grand nombre, par des institutions plus inclusives, d'y accéder. Et ça, c'est vrai que pour les générations actuelles, l'héritage reprend une importance qu'on avait un peu oubliée dans les Trente Glorieuses.
Ouais. Alors André Masson, comment est-ce qu'on explique cette forte hausse des patrimoines en France et quelles sont les conséquences économiques et sociales de cette patrimonialisation de nos sociétés ?
Oui, alors ça c'est Piketty qui a beaucoup travaillé dessus. Donc il y a une montée, si vous voulez, dans les années 50, le patrimoine en gros c'était 2 années de revenus. Maintenant c'est 6 années de revenus. Et donc on est presque revenu au patrimoine de la Belle Époque où c'était 7 années de revenus. Alors, il y a les plus-values immobilières, il y a la montée de la financiarisation, etc.
Mais ça, c'est pour les causes.
C'est pour les causes. Et alors, le résultat, c'est que comme le patrimoine est en outre plutôt concentré aux mains des seniors des plus de 60 ans, vous voyez, ce qui se passe, c'est que le flux des héritages et des donations chaque année, en pourcentage du revenu, si vous voulez, a plus que doublé en 30 ans. Donc l'assiette, si vous voulez, ce qu'on appelle l'assiette fiscale pour les droits de succession, a monté à une vitesse très très forte. Et pendant ce temps-là, les recettes fiscales dans la plupart des pays ont disparu sur les successions ou ont diminué. Elles ont diminué en dépit de la montée de l'assiette.
Et alors comment est-ce qu'on explique ça ?
Eh bien, beaucoup de pays ont supprimé les droits de succession, considérés comme un vieil impôt caduc, etc. En France, ça n'aide pas. Alors la France est un des rares pays où les droits de succession représentent plus de 1% des recettes fiscales. Il y en a 4 au monde, la France, la Belgique en Occident, la Corée du Sud et le Japon en Orient. Donc nous sommes quelqu'un qui résiste. La France résiste, mais en fait c'est très faible, alors que cet impôt a eu un passé brillant, et qu'il a été inventé en 700 avant Jésus-Christ en Égypte, que Auguste en a fait un impôt qui s'appelle le Vicesima Hereditarum, qui a eu beaucoup de succès au début de l'ère chrétienne, et sur lequel déjà d'ailleurs les Romains de l'époque, comme Pline le Jeune, se plaignaient.
Mais alors, est-ce que ce retour des inégalités, ce retour de l'héritage auquel on assiste, Anne Gottman, n'est pas susceptible de relancer le débat, la discussion autour de la taxation de ces héritages ?
Alors, je ne sais pas, parce que le retour de l'héritage, là, je dirais qu'il faut parler on ne peut pas parler de la même manière pour tout le monde, parce que on a été dans une phase, effectivement, c'est-à-dire que les cohortes qui viennent des Trente Glorieuses ont beaucoup de patrimoine à transmettre. Qu'en sera-t-il à la génération suivante ? Je dirais déjà, faudrait. Bon, tu sais, André, tu nous le diras. Mais en plus, il y a quand même une chose qui va arriver, à savoir, qui est arrivée, le vieillissement de la population, l'allongement de la durée de la vie, qui, à mon avis, va assécher considérablement la transmission.
Et le fait, effectivement, que la concentration des patrimoines soit surtout du côté des plus de 60 ans, ça entraîne le fait qu'on transmet son patrimoine beaucoup plus tard avec l'allongement de la durée de la vie, justement, André Masson.
Oui, si on regarde maintenant, au-delà, il y a une remontée aussi de la concentration du patrimoine en général. Hein. C'est-à-dire que les 1% les plus riches ont vu leur part diminuer de 1914, bon, ça on comprend pourquoi, jusqu'à 1984, pendant 70 ans, et depuis, ça remonte. Ils font près d'un quart du patrimoine total. Mais si on regarde maintenant ce qui se passe pour les seniors actuels, donc qui comprennent beaucoup des premiers baby-boomers qui ont eu 20 ans avant la crise de 80 ou de la fin des années 70, ils font en gros, ils ont donc plus de 60 ans, ils font 60% du patrimoine financier global. Et ils font 60% du patrimoine non financier. Donc c'est eux qui, pour des raisons diverses, sur lesquelles je ne m'appesantirai pas, j'ai du mal à le dire, c'est eux qui ont le patrimoine, mais ils sont pas forcément coupables. Il n'y a pas une culpabilité d'une génération qu'on montrerait du doigt. En fait, c'est eux qui l'ont.
Mais il faut voir les conséquences économiques maintenant, voilà, du fait de transmettre plutôt autour de 50 ans à ses enfants, plutôt qu'autour de 40 ans.
Je continue, oui, c'est ça. Je continue. Dans ces seniors, il y a les seniors aisés et les seniors modestes. Les seigneurs modestes, c'est un peu ce que dit Anne Gottman, c'est-à-dire que les trajectoires commencent à décliner à partir d'un certain âge. Les nouvelles générations de seigneurs modestes, il n'y a plus les fénorias, qu'elles avaient plus de patrimoine que les précédentes. Donc les trajectoires baissent. Les seigneurs aisés, tout va bien. Les trajectoires continuent d'augmenter. Donc il y a une différence de trajectoire. Et troisièmement, les seigneurs, pour des raisons un peu compliquées, en fait, ont un patrimoine inerte, passif, qui ne sert pas au financement de l'économie. Ils ont des liquidités, de l'assurance vie, de l'immobilier, mais ils n'investissent pas dans les produits de long terme. Alors, peut-être parce qu'ils sont fragiles et qu'ils sont confrontés effectivement au risque associé à la longévité, se retrouver vieux et démunis avec un état de santé précaire.
Et ça, ça intéresse le gouvernement au premier lieu, puisqu'il lui cherche à faire mieux circuler l'argent pour, par exemple, permettre aux entreprises de se financer plus facilement, André Masson.
Oui, il veut réorienter l'épargne vers les investissements productifs. Et pour ça, si vous voulez, il se trouve qu'il ne faut pas demander aux jeunes, parce que les jeunes, ils investissent dans l'immobilier, etc. Il faut demander aux seniors. Et les seniors, pour le moment, ne sont pas prêts de le faire. Parce qu'en plus, si vous voulez, cette situation donc où les seniors ont le patrimoine, avec une forte inégalité entre les seniors et sous une forme inerte, va se reproduire. C'est ça le point clé. Pourquoi ça se reproduit ? Parce que d'abord, ils vont garder le patrimoine parce qu'on hérite maintenant en pleine propriété, en général à la mort du deuxième parent, grâce au droit accordé aux conjoints survivants en 2007. Donc on devient riche en devenant vieux, souvent. Voilà. Deuxièmement, les inégalités de patrimoine vont augmenter, je passe. Et troisièmement, les seniors futurs vont se comporter comme les seniors actuels. Ils vont avoir un patrimoine inerte.
Alors justement, contre ça, le gouvernement essaye d'agir. Il y a eu des mesures déjà qui ont été prises en faveur d'une plus grande circulation de l'argent entre les générations. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les donations, les donations pèsent aujourd'hui presque autant que les héritages, et c'était pas le cas avant.
Oui, mais ça, c'est une montée qui a lieu à partir des années 80. Avant, les donations faisaient 25% du total. Maintenant, elles font 45%, donc presque autant que les héritages. Mais le premier phénomène, à part l'allègement des droits sur les donations, le premier phénomène, c'est en fait l'instauration de l'impôt sur les grandes fortunes, et plus tard de l'ISF, parce que les parents ont donné aux enfants pour moins payer l'impôt sur la fortune.
Donc aujourd'hui, la suppression de l'ISF, enfin sa transformation en l'impôt sur la fortune immobilière, freine ce processus.
Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est un effet pervers de la suppression de l'ISF, qui serait la diminution des donations. Deuxièmement, je termine là-dessus, les donations, beaucoup de gens font des donations, en nombre, mais en montant, les donations sont un phénomène de riches. Phénomène de riches, c'est-à-dire que chaque année, le 1% des plus grosses donations fait 40% du total. Donc alléger les droits sur la donation, c'est favoriser les riches de manière immanquable, surtout en montant.
Alors justement, comment est-ce qu'on peut favoriser la circulation de l'argent, la transmission de cet argent épargné, Anne Gottman, sans faire des mesures qui aggravent les inégalités sociales ?
Ça, je ne serais pas, si je le savais, je pense que je ne serais pas là où je suis, mais on s'y emploie, notamment juridiquement. Il y a eu des réformes en 2006 qui tendent à faciliter, par exemple, la transmission entre la première et troisième génération, c'est-à-dire de grands-parents à petits-enfants. Hein, ce qui avant était, c'est pas qu'on pouvait pas le faire, mais c'était pénalisé fiscalement.
C'est également le projet qui est en discussion en ce moment. Il y a une proposition de loi qui vient d'être, qui doit être débattue la semaine prochaine à l'Assemblée. Et précisément, l'idée, c'est de faciliter la transmission entre grands-parents et petits-enfants.
Bah, c'est fait. Enfin, je veux dire, on veut, c'est fait.
C'est la donation partage transgénérationnelle.
Oui. Alors, c'est peut-être sur l'héritage, en l'occurrence, les droits seraient inférieurs.
Peut-être qu'on veut encore la faciliter, parce que actuellement, elle ne se fait pas, on peut le faire directement, mais il faut l'accord de la génération médiane. Hein, c'est-à-dire que celui à qui saute son tour, si j'ose dire, doit donner son accord pour que sa part revienne à son enfant.
J'ai le détail. En fait, ce qui est prévu, c'est d'augmenter l'abattement en cas de succession ou de donation à un neveu ou une nièce ou aux petits-enfants.
Voilà. Donc, mais enfin, le mécanisme est en place, disons le mécanisme juridique. Après, il y a effectivement des modifications fiscales, des améliorations fiscales, mais le mécanisme est en place. On a également essayé de favoriser la renonciation successorale, c'est-à-dire renoncer quand on n'en a pas besoin pour laisser le patrimoine au profit de quelqu'un qui en a plus besoin, etc. C'est-à-dire, autrement dit, favoriser la fonction utilitaire de la descente des patrimoines.
Et ça marche ?
C'est très, 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 très à la marge. Mmh.
Même le saut de génération est...
Même le saut de génération...
C'est modeste.
Oui. Oui.
C'est pour éviter de traiter le problème qu'on parle de ça.
Alors donc toutes ces mesures dont on parle, les mesures fiscales essentiellement, pour vous André Masson, elles ont peu de chances d'aboutir à une plus grande circulation de l'argent ?
Oui, ben, je vous ai expliqué la situation des seniors, ils sont fragiles, ils ont une rationalité assez différente de celle de l'homo economicus standard, ils ont pourtant du temps. Ils ont des moyens, ils sont propriétaires, ils ont assez peu de dépenses contractuelles, genre trajet professionnel, éducation des enfants, mais enfin, ils ne le feront pas. Donc il faut quand même un choc. Et le choc, c'est, pour moi, c'est une incitation fiscale. C'est pas leur prendre l'argent, c'est une incitation fiscale, un mécanisme puissant d'incitation fiscale, qui est une augmentation des droits de succession, mais qui soit sélective. C'est-à-dire que moi, j'augmenterai seulement les droits de succession sur les héritages familiaux, à l'exception des dons ou legs caritatifs, des donations pleines ou entières, c'est-à-dire pas avec réserve d'usufruit, les donations totales, etc., pour, en gros, leur faire comprendre qu'il est moins question de devenir les plus riches du cimetière.
France Culture. Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Roquigny.
Mon père m'a donné creuser, retourner. Mon père m'a donné une pelle pour piocher la terre sous mes pieds. Mon père m'a donné une charrue et un fouet, une vache pour tracter. Pièces pour acheter dimanche au marché. Mon papa m'a laissé trois pièces pour acheter des graines pour semer.
L'héritage de Cana sur France Culture dans Entendez-vous l'écho, musique qui était partie un peu vite, mais nous allons poursuivre notre discussion avec la sociologue Anne Gottmann et l'économiste André Masson pour parler, donc nous continuons à parler des enjeux de la solidarité entre les générations. Venons-en maintenant à la question des retraites, alors dont on sait qu'elle fait l'objet d'une réforme actuellement.
On peut pas parler de la fin des droits de succession ?
Alors, on va en parler, mais simplement sur la question des retraites, simplement voir que les retraites sont peuvent être vues, Anne Gottmann, comme un complément ou bien un remplacement des solidarités familiales qui existaient jusque-là dans le fait d'inventer, au moment de l'invention de ces droits de retraite.
Oui, bien sûr, la retraite, ça a été une façon de socialiser, un moyen qui avant était réglé à l'intérieur de la famille ou bon, avec les secours publics, disons, qui faisait qu'une famille, il y avait souvent des contrats, surtout dans la vie rurale, des contrats entre générations où le jeune qui reprenait la propriété ou l'exploitation s'engageait à entretenir le ou les parents âgés. Et ce, avec parfois des détails extrêmement précis sur le nombre de draps, la quantité de nourriture allouée chaque mois, la périodicité du renouvellement du linge, etc. etc. Bon, alors, la retraite, en effet, le salariat et la retraite sont venus rendre les générations indépendantes sur ce plan-là, pour la vieillesse, les unes des autres.
Mais avec un choix qui se fait d'abord dans les années 30 en France, André Masson, sur un système de retraite par capitalisation. Et c'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale que l'idée de solidarité s'impose et qu'on invente ce système par répartition. Il faut peut-être expliquer un petit peu l'évolution de ce système.
Oui, c'est-à-dire que après le Conseil de la Résistance, là, des jours heureux, etc., ils ont créé le système par répartition. Avant, il y avait de la capitalisation, c'est donc une épargne qui était placée, et c'était les sociétés s'appelaient la Providence, l'Abeille, la Paternelle, etc. Avec les années 30, la crise et la Seconde Guerre mondiale, elles ont toutes fait faillite. Et donc, on a décidé de faire un système par répartition où on n'accumule pas de capital. C'est en fait un système à trois générations, ce qu'on appelle en réciprocité indirecte. C'est-à-dire que je cotise pour mes parents ou les générations aînées, j'acquiers des droits qui me seront remboursés par les générations d'après. Donc effectivement, il faut de la croyance appropriée que c'est l'obligation initiale de donner, mais que les générations d'après rendront. Et effectivement, ça peut être soumis à des tensions, par exemple, s'il y a une hausse de l'espérance de vie. Juste un mot là-dessus. Il faut que les Français travaillent plus longtemps parce que l'espérance de vie a augmenté. Vrai et faux.
Ça, c'est effectivement l'argument principal de la réforme.
Faux. Par exemple, vous, qui êtes jeune, vous devez donc cotiser pour moi. Mais imaginez que pour des raisons quelconques, votre espérance de vie soit courte, vous devrez toujours cotiser, puisque ce qui compte, c'est mon espérance de vie à moi, pas la vôtre. Donc si moi, faisant partie de la génération des baby-boomers inoxydables, je ne veux pas mourir, il faudra toujours me verser la retraite. En plus, si par exemple, je suis nombreux, nous sommes nombreux, donc il faudra que vous payiez plus. Et troisièmement, ici, dans certains pays, les baby-boomers ont fait peu d'enfants, vous êtes peu nombreux à nous payer.
Et puis il y a aussi la question de l'espérance de vie en bonne santé. Anne Gottman, il y a l'espérance de vie tout court, mais l'espérance de vie en bonne santé, c'est aussi une espérance de vie bien moins élevée que l'autre.
Oui, alors là-dessus d'ailleurs, il y a des prévisions ou des observations plus ou moins alarmistes. Effectivement, vieillir, c'est bien, vieillir en bonne santé, c'est différent. Et on a prévu pour ça, enfin comme toujours les Américains en avance sur tous les autres, et en France c'est venu aussi, même si ça ne se développe pas, on a prévu pour ça un produit financier, on l'appelle comme ça, qui, à mon avis, s'il marchait, siphonnerait l'héritage, tout simplement. C'est-à-dire, quand tu disais, il n'est plus question d'abolir l'héritage, je dirais non, il va être simplement déprogrammé.
Alors, expliquez-nous cela.
Parce que, voilà, c'est un produit, c'est un prêt que des personnes âgées peuvent, à partir d'un certain âge, justement, peuvent contracter, qu'ils n'auront pas remboursé. Mais ils ne peuvent le contracter que s'ils sont propriétaires et sur la valeur de leur propriété, et ça sera remboursé le jour de leur mort sur leur bien. Résultat, leur maison, si j'ose dire, va aller à la banque, et l'héritage, il n'y en aura plus. Bon, autrement dit, c'est quoi? C'est consommer sa maison, manger sa maison, pour vieillir chez soi, ce qui est mieux, et se soigner. Hein? Voilà, alors c'est un système qui pour les couches modestes auxquelles il s'adresse, est quand même un petit peu pervers, parce que ça veut dire qu'ils ont mis déjà 30 ans à devenir propriétaires, ils n'étaient que accédants jusque-là. Et au moment où ils le sont pleinement, on va leur dire, écoutez, vous hypothéquez votre bien, c'est d'ailleurs pas vraiment une hypothèque, il va vous libérer des revenus, et à votre mort, il y en aura plus. Donc, ça devient une propriété un peu théorique.
Alors, il y a cela, et puis il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Alors, on l'a dit, espérance de vie en bonne santé en France, elle est de 62 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes, et puis l'espérance de vie n'est pas la même selon les milieux sociaux aussi, bien sûr, André Masson. Donc, il y a aussi cette question de profiter de sa retraite moins longtemps selon le milieu auquel on appartient.
Oui, alors c'est d'autant plus important, si vous voulez, qu'il faut distinguer deux périodes dans la retraite. La période du bel âge, en gros 60-74 ans à peu près, et puis après la période de repli, si vous voulez. Donc quand vous dites, il va falloir travailler plus longtemps. Bon, pour un cadre supérieur, un an de travail de plus, ça va.
Je rappelle que c'est autour de 64 ans que serait cet âge pivot qui doit être décidé.
Mais si vous voulez, voilà, c'est ça. Mais pour un ouvrier, effectivement, il y a un écart, je pense, de 13 ans entre l'espérance de vie d'un ouvrier homme et d'une femme cadre. Donc c'est quand même assez énorme. Et si vous voulez, effectivement, pour un ouvrier, c'est presque le quart ou le dixième de son bel âge. Donc les plus belles années de sa vie disparaissent.
13 ans pour les hommes et 8 ans pour les femmes, en effet.
Oui.
Alors effectivement, cet aspect est important. Et ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que ce qu'on constate, c'est que la hausse de l'espérance de vie entraîne une augmentation du nombre de personnes dépendantes qui sont accompagnées par ceux qu'on appelle les aidants familiaux. En tout, il serait près de 11 millions, soit un Français sur 6. Et la moitié d'entre eux accompagne un proche en raison de son âge, donc ce qui pèse fortement sur le quotidien et les finances de ces aidants. Et c'est quelque chose qui a été en tout cas pris en compte par le gouvernement, la personne d'Agnès Buzyn.
Je souhaite travailler sur des droits contributifs à la retraite. Je pense que c'est important qu'on reconnaisse ce temps dédié à l'autre, des aidants. Ça peut être des très jeunes qui aident leurs parents qui ont des Alzheimer. Ça peut être des mères d'enfants handicapés qui s'arrêtent toute leur vie pour pouvoir maintenir un enfant à la maison. Je pense qu'il est important que certains puissent être rémunérés parce qu'effectivement, les pertes de salaire sont parfois très importantes dans les familles. La seule question, c'est combien de temps la solidarité nationale peut prendre en charge un congé d'aidant. Aujourd'hui, vous le savez, ils ne sont pas rémunérés. Certaines entreprises font des efforts. En tous les cas, c'est la direction dans laquelle le président nous engage à aller. Et donc, je vais faire des propositions concrètes. Il y aura des mesures aidants dès cette année.
Voilà, la ministre des Solidarités Agnès Buzyn, c'était en avril dernier. Le gouvernement envisage donc d'indemniser en 2020 le congé de proche aidant, donc qui permet d'interrompre sa carrière pendant 3 mois. Puis il y a aussi des maisons de répit, à l'image de celle qui vient d'ouvrir ses portes à Lyon, qui devraient voir le jour et qui doivent permettre justement à ces aidants de se reposer. Est-ce que vous diriez, Anne Gottmann, que le gouvernement a pris conscience aujourd'hui de la nécessité d'agir ?
Oui, d'autant que ces aidants, en général, ce qu'on appelle la génération pivot, c'est-à-dire qu'ils sont pris des deux côtés, c'est-à-dire du côté des parents âgés, ils ont encore des enfants. Donc, et puis, j'allais dire, il faut mettre quand même ça surtout au féminin, hein, c'est quand même surtout les femmes qui ont, si j'ose dire, double peine.
Alors c'est 58% de femmes.
Oui. 58% seulement.
Ça pourrait être plus, en effet, le chiffre est de 58%.
Oui. Bon, maintenant, dans quelle mesure ces besoins d'aide, d'aidants, ne sont pas liés à des diminutions, par ailleurs, de prise en charge publique, je ne saurais pas le dire.
Mais en tout cas, c'est une question qui se pose, en effet, André Masson, sur le fait que ces mesures proposées par le gouvernement, voilà, 3 mois pendant lesquels on peut interrompre sa carrière et pendant lesquels on reçoit une rémunération pour pouvoir aider un proche, effectivement, est-ce qu'on n'est pas en train de privatiser ou de remettre aux familles la responsabilité qui devrait être prise en charge par l'État ?
En tant qu'économiste, je m'intéressais au financement. Ça fait un bout de temps qu'on voudrait faire une assurance dépendance publique, obligatoire et inclusive. Comment la financer ? Ça, c'est depuis 2001 ou même après. Et l'idée, c'est qu'on veut pas augmenter les prélèvements obligatoires. Donc, parce que ça va augmenter le coût du travail. Quand vous embauchez quelqu'un, il vous coûte 2 fois ce qu'il va toucher. Donc, moi, j'avais fait des recommandations pour le rapport Libault sur le prêt viager, etc. Ça, ça a été repris. Et j'ai une proposition qui n'a pas du tout été reprise dans ce rapport Libault sur la dépendance. Qui est quoi ? C'est que donc il faut financer, comme on peut pas augmenter les prélèvements obligatoires sur le travail, moi je propose que les retraités cotisent pour la dépendance, pour le financement complémentaire nécessaire de l'ordre de 10 ou 15 milliards. Bon, donc ça c'est pas du tout quelque chose de révolutionnaire, c'est ce que disait le président de l'AG2R, la mondiale, André Renaudin. Actif, je cotise pour ma retraite, retraité, je cotise pour ma dépendance. J'ajoute éventuel, hein, parce que c'est pas sûr quand même, heureusement. Et donc, c'est cette idée-là, donc de faire cotiser les retraités, plutôt que d'avoir des expédients comme des journées de solidarité, bon, les jeunes, etc. Et l'idée, c'est que ce serait comme la retraite, et donc il y aurait une cotisation qui serait sur les revenus des seniors, mais aussi sur leur patrimoine. Ça aurait beaucoup d'avantages en termes d'égalisation au sein des seniors, de donations pour éviter la cotisation sur le patrimoine, etc. Et donc, je pense que c'est la mesure, dans nos sociétés actuelles, avec le patrimoine qu'il y a et l'allongement de la durée de vie, c'est la mesure qu'ils voudraient mettre en place. Apparemment, elle reçoit un accueil réservé.
Alors déjà, il faudrait savoir
Vous pouvez expliquer peut-être pourquoi elle reçoit un accueil réservé, Anne Gottman, et aussi j'aimerais vous entendre sur cette proposition effectivement de faire cotiser les retraités. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je l'ignore.
Pour la dépendance.
Franchement,
est-ce que c'est une idée qui vous paraît judicieuse?
Oui, ça paraît de toute façon judicieux. Il y a la première partie de la proposition d'André qui est on ne peut pas augmenter le coût du travail. Bon,
ça se discute.
Voilà, ça se discute, énorme. Mais il y a voilà. Il y a un frein énorme, donc...
Ça sert de prétexte.
Bon, voilà. Mais autrement, c'est vrai que la dépendance... il va y avoir un... Bon, à cause de l'allongement de la durée de vie, devient un poste, j'allais dire, de dépense...
Et cela d'autant plus que les établissements, les EHPAD, coûtent particulièrement cher. On estime que le coût médian d'un EHPAD en France est 2 445 euros, selon le magazine 60 millions de consommateurs, André Masson.
Oui, c'est ça, 2 500. Alors ça peut baisser à 2 000 euros, mais pas en dessous, et ça peut monter à 8 000 à Paris, dans les... Au quartier.
Alors justement, essayons de voir comment la réforme de la retraite actuelle et actuellement en discussion essaye de répondre à un certain nombre d'enjeux. En l'occurrence, cette réforme prévoit une plus grande ouverture au système de retraite par capitalisation dont on parlait tout à l'heure. Quel est votre point de vue, André Masson, sur cette mesure qui a été davantage mise en place en Allemagne et en France qui commence, semble-t-il,
à être mise en place ? En France, c'est pas de la capitalisation, c'est toujours de la répartition. C'est un système à points, mais que toujours en répartition.
Mais avec l'idée que plus de gens pourront avoir accès à une retraite par capitalisation. C'était 1% jusqu'ici, ce serait 5% selon les réformes. Alors expliquez-nous ça. Ouais.
La loi Pacte, c'est faire monter l'épargne salariale, l'épargne retraite de 230 milliards à 300 milliards avec un produit d'épargne retraite adapté, avec sortie en rente ou en capital. C'est pas à la hauteur des enjeux. Les enjeux, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus et on retrouve le fait que le patrimoine, c'est pas les jeunes qui l'ont, c'est les seniors. Donc il faut plutôt transformer le patrimoine des seniors qu'aller chercher chez les jeunes qui ont des contraintes de liquidité, comme on dit, avec l'éducation des enfants, l'achat du logement, etc. Donc c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller. Parfois, il y a aussi des problèmes, il y a des paradoxes énormes dans nos sociétés. J'en indique un qui est lié à la dépendance à la retraite, le bien vieillir. Souci de soi, maintien de la forme, etc. Activité socialisée où on se rend utile. Et bon, voilà, ça c'est maintenant que tout le monde en parle. Bon. Ça peut normalement, si ça marche, augmenter l'espérance de vie en bonne santé. Donc, ça va reculer d'autant la dépendance ou la perte d'autonomie. La pression sur les aidants, c'est donc magnifique. Ça peut être utile pour la société. Donc, un énorme applaudissement. Mais ces gens qui, par exemple, ma génération, qui vont donc avoir une espérance de vie en bonne santé accrue, vont aussi avoir une espérance de vie tout court accrue. Donc, votre génération va devoir travailler de plus en plus longtemps pour qu'on puisse réaliser notre bien vieillir. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faut mettre à la poubelle la retraite par répartition, mais il y a des paradoxes difficiles. C'est-à-dire pour qu'on ait le bien vieillir, et vous, ce que vous aurez, surtout si vous êtes jeune, c'est la promesse incertaine et lointaine que vous-même, vous aurez encore une espérance de vie plus longue, surtout en bonne santé. Mais on n'en sait rien. Donc vous avez comme ça des contradictions entre perte d'autonomie qui diminue et charge des retraites qui augmente.
Vous dites que le système de répartition est maintenu, effectivement, mais alors, est-ce que on peut s'attendre, avec la réforme qui vient, est-ce que de plus en plus de salariés se tournent vers l'épargne-retraite, ce fameux plan d'épargne-retraite inventé par la loi Pacte, qui cherche justement à créer des fonds de pension à la française, comme ça peut exister aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Japon, André Masson?
Oui, alors moi, je penserais plutôt transformer le patrimoine des seniors pour en faire un substitut au fonds de pension. Mais la réforme des retraites actuelles, c'est plutôt faire un système universel et contributif, dans le cadre de la répartition. C'est vrai que ça ouvre, ça facilite la capitalisation, puisque, si vous voulez, vos cotisations, ça devient comme une quasi-épargne. Dès que vous travaillez pour un jeune, hop, mon compte personnel de retraite augmente. Ça, c'est très bien comparé au système d'avant. Ma foi, c'est une réforme difficile et sans doute beaucoup trop ambitieuse, puisqu'on veut faire un seul système de retraite avec les mêmes cotisations pour tous et qui concernerait 95% des retraites. Ce que même les Suédois ne font pas, ce qui vous explique les manifestations dans la rue, en particulier des professions libérales qui ne veulent pas cotiser comme des fonctionnaires ou des salariés du privé. Je pense qu'on a visé trop haut avec un système unique. On a confondu, si vous voulez, justice et identité de traitement. Il fallait passer des 42 régimes actuels à 3 ou 4, mais quand même dans une situation où les règles étaient communes, mais les taux de cotisation n'étaient pas les mêmes, etc.
Mais alors justement, un dernier mot tout de même sur ce plan d'épargne retraite. Est-ce que il faut estimer, André Masson, qu'il va remplacer l'assurance vie, qui est ce placement très chéri par les Français les plus aisés? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le but, et donc, pour quelles raisons?
Il va absolument pas remplacer l'assurance vie telle qu'elle est.
En tout cas, c'est l'objectif du gouvernement. C'est ce qu'espère le gouvernement.
L'assurance vie, vous savez à quel montant il y a en assurance vie actuellement? 1700 milliards.
Mais, alors pas forcément remplacer intégralement, mais en tout cas en partie.
1700 milliards, il veut passer, d'ici la fin du quinquennat, il n'est pas sûr, de 230 à 300 milliards. Il veut augmenter de 70 milliards, si tout va bien, contre 1700 milliards. Le compte n'y est pas.
Donc on est loin de créer un fonds de pension à l'américaine.
Oui, tout à fait. Et surtout, ce fonds de pension peut se créer, mais ce sera du long terme. Ce que je propose, ce serait possible de le faire demain.
Et j'aimerais qu'on fasse un tout petit point sur l'Allemagne, qui a introduit depuis le début des années 2000 une dose de capitalisation. Quel bilan on peut tirer? Qu'est-ce qu'on peut dire de la comparaison entre les systèmes de retraite entre la France et l'Allemagne?
C'est la loi Ristère, là, oui, c'est ça. Mais les Allemands, quand même, il faut se mettre à leur place. Ils ont un taux de fécondité très bas. Donc, ils ont beaucoup de personnes âgées, etc. Ils ont peur. Et donc, c'est comme ça que la loi Ristère est passée. Mais l'idée était aussi de diminuer le poids des retraites publiques. Et donc, le résultat, il y a des discussions sur le taux de rendement du fonds. Et actuellement, c'est pas terrible, comme vous le savez, parce que les taux sont bas. Le pire, c'est que s'il y avait une forte croissance et un taux de rendement du patrimoine faible, parce qu'à ce moment-là, la répartition où il y a plus de gens pour payer serait beaucoup mieux. Mais pour le moment, si vous voulez, le problème qu'ils ont, c'est des taux de rémunération sur les fonds de pension qui sont trop bas.
Mais alors, pour recréer ces solidarités familiales, pour qu'elles soient à la hauteur peut-être des enjeux, Anne Gottmann, il vaut mieux passer par l'héritage plutôt que par le système de retraite?
L'héritage, en tout cas, ce qu'on entend, et une des raisons effectivement de la réticence des gens vis-à-vis de l'impôt sur l'héritage, et ils disent souvent, nous on sait mieux ce qu'il faut pour nos enfants que la redistribution publique. Voilà, nous on sait de quoi ont besoin nos enfants, en gros on sait se débrouiller sans que ça parte, puis ça revienne sous forme socialisée par l'impôt ou l'État-providence. Donc oui, je pense que les gens vont être de plus en plus... d'abord, sont déjà de plus en plus en train d'aider les jeunes générations. Ben, ça, c'est absolument frappant. Si vous voulez, je ne sais pas le nombre de donations qu'il y a par rapport à... Il y a longtemps, et il y a 30 ou 40 ans, mais ce qu'on entend dire quand même, c'est que maintenant, la plupart des parents aident leurs enfants mariés. Ce qui, dans les années 70, c'était l'inverse, quasiment l'inverse.
Dans un contexte de chômage.
Ils ont un niveau de vie supérieur.
Mais bien sûr, bien sûr.
Alors, quelques chiffres quand même. Donc, parce que ça montre le débat. Les recettes fiscales des droits de succession en 2010, où elles passent par un creux, après la loi TEPA de 2007, sont de 8 milliards. En 2016, avec les lois successives, Sarkozy qui revient en 2011, puis Hollande, elles sont de plus de 13 milliards. Personne ne le sait. Gain, en 6 ans, 5 milliards. Par an, c'est exactement le montant de l'ISF qui a disparu. Donc ça vous montre pourquoi l'administration fiscale française est pour le statu quo, pour les droits de succession, c'est un impôt très impopulaire, mais qui rapporte. Donc c'est pas le moment d'en parler.
Et alors, ce que vous proposez, André Masson, c'est de créer un système de solidarité entre les retraités les plus aisés et les jeunes les plus pauvres. Comment est-ce que ça fonctionne?
Attendez, ça c'est autre chose. Moi j'étais sur les droits de succession. Alors, les seniors, donc, une incitation, c'est un bâton et une carotte. C'est ça. Le bâton, c'est qu'on va donc augmenter les droits de succession sur les héritages familiaux. Je laisse le même seuil d'exemption, 100 000 euros par an et par enfant, et après je fais deux taux, 30%, 60%. Je vous signale qu'actuellement, il y a une kyrielle de 7 taux. on se perd de 5% à 45%.
Voilà. D'où l'objectif de la réforme aussi, de gagner en lisibilité.
Je parle des droits de succession.
Oui, il y a une réforme qui doit être discutée la semaine prochaine.
Voilà, oui, c'est ça. Alors ensuite, je veux offrir aux seniors tous les moyens d'éviter cette surtaxe successorale. Ce qu'ils peuvent pas faire, c'est thésauriser par motif de précaution, par joie de posséder. Donc ils peuvent consommer, comme dit Yann Gottman, pour un prêt viager, consommer le patrimoine. Ils peuvent donner ou ils peuvent investir. Je propose des placements de long terme, plus risqués, dans des fonds dédiés pour les besoins qu'on a actuellement de révolution numérique, d'énergie bas carbone, d'infrastructures, tout ça, etc. Les placements de long terme pour le bien commun des sociétés. Et ces placements seraient exonérés largement de droits de succession pourvu qu'ils soient tenus au moins pendant 25 ans. Vous allez me dire, mais la personne qui a 85 ans, elle peut pas tenir 25 ans. Alors ce sera entre le père et le fils, ou la mère et la fille. Si vous détenez pour 25 ans, vous êtes largement exonéré de droits de succession, et vu la surtaxe que j'introduis, ce sera d'autant plus incitatif. C'est la seule manière de réorienter de manière massive l'épargne des seniors vers les investissements productifs, de diminuer l'assurance vie, qui actuellement, en diminuant les avantages en matière de transmission de l'assurance vie qui ne se justifie pas, et de créer un substitut au fonds de pension de notre pays, en même temps en fonds souverains, etc. Mais pour ça, il faut qu'ils soient détenus sur le long terme pendant 25 ans. Et donc, je suis obligé d'élargir l'horizon des seniors au-delà de leur propre vie.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Je vais vous demander un dernier mot, Anne Gottman, sur les nouvelles formes que prennent ces solidarités familiales aujourd'hui, donc entre, d'un côté, effectivement, le rôle que continue à jouer la famille dans la solidarité et le rôle que peut et que doit jouer l'État, selon vous.
Ben, on sait très bien que ce qui a marché, c'est quand l'un épaule l'autre. C'est-à-dire que les aidants familiaux sont d'autant plus aidants que l'État les soutient. Donc ça, c'est, je veux dire, ça a été à peu près observé partout. Donc voilà, il ne s'agit pas de substituer, il ne s'agit pas d'un système, mais c'est absolument complémentaire.
L'État, la famille et le marché sont complémentaires, André Masson.
Dans le cas des aides aux parents âgés dépendants, il y a complémentarité entre aide publique et aide familiale. Ça, c'est un mot un peu savant, mais c'est exactement ce qu'a dit Anne.
Et alors, sur justement le rôle qui doit être donné à chacun, selon vous, cette complémentarité, quelle forme elle devrait prendre?
C'est ce que j'ai dit, il faudrait normalement, pour rassurer les seniors, qu'il y ait une assurance dépendance collective, obligatoire, etc. Ce qui les permettrait d'autant plus de répondre aux incitations sur l'héritage et d'investir dans les placements risqués. Parce qu'effectivement, s'ils sont pas sûrs de leurs vieux jours, ils investiront pas, même les seniors aisés, dans les placements risqués plus long terme.
La réforme des retraites en discussion actuellement, c'est en tout cas un dossier qu'on va continuer à suivre de près, tout comme celui de l'héritage. Et c'est l'heure du journal de l'écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Deux accords franco-allemands sur la coopération industrielle en matière de défense. L'annonce lors de la rencontre hier entre Emmanuel Macron et Angela Merkel était attendue par les acteurs de l'armement.
Oui, premier accord sur des règles communes en matière d'exportation. Deuxième accord sur la poursuite des programmes d'avions et de chars de combat communs d'ici 2040. Une nouvelle impulsion donc après un an en gros de blocage industriel et politique, à commencer par le refus du Parlement allemand fin 2018 d'exporter des armes vers l'Arabie Saoudite, y compris les composants qui entrent dans des armements européens, ce qui bloquait aussi des exportations, des missiles français ou des avions britanniques, des Eurofighters. Downing Street s'en était plaint en juin, car le blocage affectait BAE Systems. La France, troisième exportateur mondial, avait aussi fait pression sans succès, puisque l'Allemagne avait renouvelé deux fois cet embargo. Cette fois, donc, l'accord se veut juridiquement contraignant. C'est seulement si la part de composants nationaux dépasse 20% que les autorités auront un droit de regard. Accord sur des minima, donc, mais pas à minima, explique Sylvie Matelli, économiste et directrice adjointe de l'IRIS.
Il est clair que la décision des Allemands d'interdire toute exportation vers l'Arabie Saoudite pénalisait le programme Eurofighter, parce qu'il y a un certain nombre de composants allemands qui ne pouvaient plus être exportés vers l'Arabie Saoudite, et de fait, vous ne pouviez plus exporter d'avions de combat, et ça c'est BAE Systems qui les exportait, sans enlever ces composants allemands, autant dire que c'est totalement impossible. Et il faut bien retenir, pour donner des chiffres, que les exportations de BAE Systems en Arabie Saoudite ont représenté en 2018 18-14% de son chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment pas rien. On est vraiment sur des montants qui sont importants et donc des enjeux pour les entreprises qui sont extrêmement forts, extrêmement lourds. Donc les Français, depuis plusieurs mois, depuis le mois de novembre dernier d'ailleurs, essayaient de négocier cette règle d'une part de composants qu'on pourrait exporter sans demander de composants allemands qui pourraient être intégrés sur des armements produits en France et exportés par les Français. Et on visait, alors là c'est un relatif succès parce qu'on attendait, on avait demandé effectivement que ce soit mis au niveau de 20% et visiblement les Allemands ont accepté de suivre cette décision et ce choix. Donc ça c'est une annonce qui est intéressante. Reste à voir maintenant comment cet accord est véritablement définitif. Est-ce qu'il ne devra pas être validé par le Parlement allemand? C'est un petit peu toute la question en fait.
Deuxième accord sur la poursuite des deux projets communs d'avions et de chars de combat, Xavier.
Oui, ces deux derniers chantiers à 150 millions d'euros pour l'étude sur 2 ans pour l'avion tardaient pour des raisons de blocage politique et de concurrence nationale. Il inquiétait les deux principaux industriels Dassault Aviation et Airbus. Accord de principe, cette fois là pour continuer. Là aussi, il y avait eu un certain nombre de blocages sur le partage des tâches entre les deux partenaires. Je parlais de la concurrence industrielle, notamment entre Safran et MTU pour les moteurs et puis Nexter et Rheinmetall pour le char. Pour le démonstrateur de l'avion commun, le SCAF, l'appel d'offres, sera en janvier.
On passe au bref, direction l'Équateur, avec un retour à la normale relatif de la production de pétrole après la crise.
Production nationale rétablie à 94%, annonce la compagnie Petro Amazonas, à 395 000 barils par jour. Rétablissement rapide après l'accord social de dimanche. Quelques puits, dont certains des compagnies privées qui produisent, eux, 114 000 barils par jour, doivent encore être réparés après leur occupation par les manifestants. Pendant les 10 jours de crise, l'Équateur aurait perdu plus de 83 millions de dollars de 1,5 million de barils de pétrole, autant qu'une journée de production en Arabie Saoudite.
Et le pétrole d'Arabie Saoudite, justement, il y en a encore trop dans les activités des grandes banques, c'est ce que dénoncent les ONG climatiques.
Beaucoup trop d'Aramco, la compagnie pétrolière nationale première mondiale, dont l'introduction en bourse à 1500 milliards de dollars ne cesse d'être annoncée de manière imminente par les autorités saoudiennes. Plusieurs grandes ONG internationales climatiques dénoncent en effet la participation à la levée de fonds de 7 banques, dont les principales américaines, le Crédit Helvétique ou la britannique HSBC pour les 2% donc de prise de participation proposée au départ. Ces pressions vertes sur la finance interviennent aussi au moment où le fonds souverain norvégien recule sur le désinvestissement des énergies fossiles en ne se retirant que des projets de prospection et extraction, ce qui épargne les activités d'Exxon, Total ou BP.
Et on finit avec la Banque mondiale, Xavier, qui incite les États d'Afrique à plus de libre-échange.
Un appel au pragmatisme des pays, dit le directeur de la Banque mondiale, David Malpass, qui témoigne de l'incertitude des institutions financières quant à la mise en place effective pour mi-2020 de la ZLEC, la zone de libre-échange continentale, à laquelle adhèrent 54 des 55 pays africains. Les estimations des retombées varient avec une augmentation de 60% du commerce intra-africain d'ici 2022, selon l'Union africaine, une augmentation de 16 milliards de dollars des bénéfices avec 90% des droits de douane en moins, affirme le FMI, ou selon d'autres, une déstructuration de marchés locaux et une augmentation des inégalités. Bref, un suicide économique, disait un chercheur.
Et j'indique pour les auditeurs qu'on a réalisé une émission avec Kako Nubuko et El Mouhoub Mouhoud sur ce sujet du protectionnisme en Afrique qui était absolument passionnante. Merci beaucoup Xavier Martinet, on se retrouve lundi. My heart, that's Truth Hurts de Lizzo. Merci beaucoup André Masson et Anne Gottman de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, après la remise du prix Nobel, cette semaine à Esther Duflo, entre autres, où on est la recherche française en économie. On en parlera avec Béatrice Cherrier, Pierre-Yves Joffard et Arthur Jatteau. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr ou en podcast. Et on vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.